Alors je crois qu'il est l'heure, 18h30. Nous sommes entrés dans le deuxième jour de la neuvaine. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour de la neuvaine. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer notre parcours à travers l'Écriture sainte pour mieux comprendre le mystère de l'Immaculée Conception. Et comme je l'avais annoncé hier, on va entrer davantage dans la signification de ce que veut dire, au fond, être créé à l'image de Dieu. Vous vous rappelez ce verset biblique, « Faisons l'homme à notre image », le verbe « faisons » est au pluriel, ce pluriel nous réfère à la Trinité. Ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est créé de l'intérieur de la communion. Comment est-ce que cette communion va se réaliser? À travers l'altérité fondamentale qui se trouve exprimée dans le fait que Dieu crée l'être humain homme et femme. Nous sommes un être masculin, un être féminin, au fond de nous-mêmes, nous sommes soit hommes, soit femmes. Donc l'être humain est marqué par une altérité fondamentale. Pour qu'il y ait communion, il y faut l'altérité. L'altérité nous ouvre à quelque chose d'autre que l'on peut recevoir comme un don, à une autre réalité. Et ce don nous révèle à nous-mêmes. Donc ça, ce sont les relations de communion. Alors ces relations de communion, nous sommes appelés à les faire grandir dans notre vie précisément pour porter du fruit, pour donner la vie, pour communiquer la vie de Dieu. Le deuxième récit de la création qu'on va un tout petit peu explorer ce soir nous propose comme un zoom sur la façon dont l'être humain est créé. On sait qu'il est créé à l'image, mais on n'a pas beaucoup plus de détails. Et donc le deuxième récit vient comme nous offrir plus d'éléments pour comprendre, au fond, la façon dont Dieu nous a créés. Alors qu'est-ce qui nous est dit dans un premier temps? C'est que nous sommes terreux. Nous sommes issus de la terre. C'est toujours pour nous aider à garder un bon sens de l'humilité. Vous savez que le mot humilité, il est un peu relié au mot humus, d'où nous sommes issus de la terre. Nous portons en nous une dimension terreuse qui fait que nous sommes assez familiers. En tout cas, c'était bien le cas avant le péché originel, mais c'est toujours un peu le cas. Nous sommes des familiers de la terre. Nous aimons la création. Nous aimons nous balader en forêt. Nous aimons voir les montagnes. Nous aimons les beaux couchers de soleil. Donc, nous sommes des familiers de la terre. Donc, nous ne sommes pas seulement terreux. Il est précisé que nous sommes modelés, le modelage de Dieu. C'est assez intéressant ce terme-là. Souvent, on situe notre relation à Dieu au niveau de notre âme. Et il est évident que Dieu nous parle à travers notre âme. Mais il nous parle aussi à travers notre corps. Notre corps est modelé. Alors, il est modelé par différentes réalités. Il est modelé par l'éducation que vous avez reçue, par la façon du coup dont vous avez grandi dans votre famille, par le fait d'être né à Paris, à Versailles. Moi, je suis né à Bruxelles. Je pense que ça m'a marqué, c'est évident. Donc, on est modelé par l'environnement, on est modelé par nos amitiés, par nos relations, par la formation que l'on a reçue. Alors, ce sont autant d'influences qui viennent nous façonner. Mais ce que l'Écriture nous rappelle, c'est que le modelage le plus profond et le plus décisif, c'est notre relation à Dieu. Le Seigneur est celui qui nous habite de façon extrêmement profonde. On l'a rappelé hier, il est au principe de notre création. Donc il nous donne perpétuellement la vie, il habite notre cœur. Le mot cœur, c'est le milieu. Il est au principe et au cœur pour nous donner la vie. Et donc, C'est le Seigneur qui nous modèle en profondeur. On peut faire l'expérience de cela quand on rencontre des moines ou des moniales qui ont une vie de prière, qui ont été façonnés par cette relation à Dieu et qui, à travers leur visage, rayonnent de leur relation à Dieu. Je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais étudiante infirmière. Vous savez, quand on est jeune, on a des grands idéaux. J'étais partie avec mon sac à dos en Inde pour être missionnaire. Donc, j'allais rejoindre les missionnaires de la charité comme bénévole. comme infirmière. Et arrivée là-bas, j'ai été extrêmement marquée, choquée, profondément interpellée par la misère à Calcutta. Vraiment. J'ai presque honte de le dire, hein, mais j'ai plus tellement honte que ça. Vous savez, avec l'âge, on prend un peu de recul. Mais la première pensée qui m'est venue, c'est Laetitia, tu prends l'avion et tu t'en vas. Puis comme j'avais quand même une part d'orgueil encore à cette époque-là, enfin certainement aujourd'hui encore, hein, le Seigneur nous éduque, nous reprend. Et donc je me dis, non, ça, c'est, je serais trop gênée de rentrer comme ça. Et donc je suis allée adorer le Seigneur dans la maison mère, la maison où vivent certaines sœurs, où vivait à l'époque Mère Teresa. Et donc je prie devant l'hostie, devant la présence réelle. Je me dis, mais Seigneur, voilà, je croyais te connaître un peu, et puis je découvre qu'à travers cette relation au frère, il me faut approfondir encore la relation à qui tu es. Hein. Celui qui est dans l'hostie se dit aussi à travers nos frères et à travers ses frères qui sont éprouvés par la misère. Jésus hostie, Jésus qui se fait pain, Jésus qui se donne à manger, se donne ô combien à travers ses frères. Et en sortant de l'adoration, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire et comment j'allais continuer. Il y a une petite sœur qui me frappe à l'épaule, enfin qui me tape l'épaule, et je me retourne, et c'était Mère Teresa. Et elle m'a dit quelque chose. Alors je vais vous décevoir, parce que j'ai été tellement distraite par la lumière dont elle rayonnait. Vous savez, Mère Teresa, à partir d'un certain âge, toute recroquevillée, elle avait un visage marqué, façonné par la misère. Elle avait un visage... et son corps, qui souffrait beaucoup d'arthrose, était tout recroquevillé. Elle portait en elle les relations qu'elle avait vécues au quotidien. Mais plus profondément, elle portait en elle cette relation à Dieu. Et donc, ce paradoxe m'a profondément marquée. Et je me dis, tant pis, j'ai pas entendu ce qu'elle voulait me dire, mais j'ai reçu la parole que le Seigneur voulait me dire. Hein, ce paradoxe de la misère et de sa présence réelle. Comment est-ce que Dieu nous façonne ? Alors, cela m'a permis de comprendre aussi à quel point il est plus profond que notre misère humaine. Le mystère de l'Immaculée Conception nous dit que plus profondément que nos abîmes intérieurs, il y a le salut de Dieu toujours offert. Et ce salut, il est accessible à tout homme. À tout homme, à tout instant, Dieu se donne parce qu'il s'est donné une fois pour toutes. Alors, le pour toutes, ça veut dire toutes les situations, toutes les occasions qui se présente à nous, eh bien, Dieu nous précède. Dieu a déjà marqué ce que nous vivons dans le quotidien. Et la question que j'aime poser à mes étudiants, c'est est-ce que vous posez des actes de foi dans la journée ? Souvent, votre question, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Comment je vais m'en sortir ? Etc. C'est une bonne question. Mais est-ce que comme chrétien, comme baptisé, vous posez des actes de foi ? Est-ce que vous vous référez vers ce Christ qui est mort et ressuscité pour vous ? Et qui vous ouvre pas à pas dans votre vie le chemin de salut. Et au fond, notre vrai bonheur, il est là. Hein, notre lieu de joie, il est là. Donc, nous sommes terreux, nous sommes modelés, et celui qui nous modèle le plus profondément, c'est Dieu. Alors, nous ne sommes pas simplement terreux et modelés, nous bénéficions du souffle de Dieu. Dieu vient insuffler dans les narines de l'homme son propre souffle. Nous avons une âme qui est spirituelle. L'âme, du point de vue des catégories philosophiques, c'est le principe de vie. Vous savez que les plantes ont une âme qu'on appelle une âme végétale. La rose a l'âme de la rose. Ça veut dire que son principe de vie est d'être une rose. Les animaux ont une âme sensitive. Leur principe de vie, c'est de suivre ce qu'ils ressentent, c'est de se mouvoir en fonction de ce qu'ils ressentent. L'être humain a une âme qui est spirituelle. Ça veut dire que ce qui doit le mouvoir, ce qui doit le faire avancer, ben c'est sa relation à Dieu. Pas à pas, même corporellement, même physiquement, vous savez, c'est un peu le sens des pèlerinages. Hein, on est appelé à se mouvoir en fonction de notre relation à Dieu. Alors, on peut reconnaître que par ailleurs, nous avons aussi une part de dimension végétative. Chacun d'entre nous aime le soleil et on aime se tourner comme les plantes, comme les fleurs vers le soleil. On a aussi une dimension sensitive, on a des instincts. On ressent aussi les choses. On a un instinct de survie et c'est heureux que ce soit ainsi. mais plus profondément que la dimension végétale, sensitive, eh bien, nous sommes doués d'une liberté. Et en quoi consiste cette liberté ? Eh bien, à vivre de cette relation spirituelle avec Dieu, à vivre en relation avec mon Créateur et mon Sauveur qui me guide pas à pas, qui me guide jour après jour. Donc, l'être humain constitué d'un corps et d'une âme spirituelle. Alors, le texte nous dit qu'il est placé dans un jardin. Hein, donc, le Seigneur a préparé le lieu où il allait mettre l'être humain. Donc, il est placé dans un jardin et il y est placé pour cultiver le jardin. Le mot cultiver est assez beau. Alors, il rejoint un tout petit peu le terme dominer qu'on a vu hier. Dominer, c'était à la manière de Dieu, reconnaître la vie qui nous entoure et veiller à ce qu'elle puisse grandir de façon ordonnée. Cultiver, c'est de ce terme-là que vient le mot culture. Culture. La culture, c'est notre manière de vivre. Alors, comment est-ce que on cultive humainement? C'est une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on cultive à travers cette relation à Dieu qui nous donne de reconnaître le don de la vie à travers chacune de ces créatures, le don que représente l'autre pour moi, ce don que je suis amenée à faire grandir. Donc nous sommes appelés à cultiver. Donc l'être humain est placé dans ce jardin, et puis le Seigneur va lui parler et va lui donner un commandement. C'est le premier commandement qui fait un peu écho à la première parole qu'on a vue hier, « Soyez féconds ». Alors quel est ce premier commandement ? Il est intéressant parce qu'il est d'abord positif. Il faut noter le fait qu'il soit positif. Il est dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Alors selon la symbolique juive, biblique, l'arbre, c'est ce qui relie la terre et le ciel. Donc l'arbre est symbolique de toute la création. Quand il est dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, limite, je te donne toutes les créatures, je te donne toute la création et tu peux en profiter. Donc le commandement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que là, la loi est une vraie parole de vie. Je t'ai créé, j'ai mis en toi ton souffle et tu peux bénéficier, tu peux profiter de toute la création. Alors il y a une exception un peu étrange, pas facile à comprendre, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Alors quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal ? On a vu que l'homme était créé bon et il est fait pour la bonté. Donc, ce qu'il ne peut pas faire, c'est de sortir de cette bonté. Parce que s'il sort de cette bonté, en connaissant le mal, le verbe connaître, au sens hébraïque, c'est expérimenter. Donc, il ne s'agit pas d'une privation de discernement, puisqu'il doit discerner à partir de ce commandement. Il devra veiller à rester dans ce qui est bon. C'est vraiment dire ne pas expérimenter le mal. Et donc, ce qui est interdit, voilà, c'est d'entrer dans cette expérience du mal qui souvent se présente comme un bien. On en fait l'expérience. On est rarement devant un mal simple. Souvent, on est tenté sous l'apparence d'un bien. D'où l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on en mange, qu'est-ce qui nous est dit ? Tu mourras. En fait, ce n'est pas très difficile à comprendre fondamentalement parce que on fait tous l'expérience que lorsque on agit pas bien, on agit mal, eh bien, il y a un abîme qui vient s'inscrire en nous. Ce mal vient nous abîmer et vient nous inscrire sur un chemin de mort. Et donc, c'est cela le premier commandement. C'est un commandement qui responsabilise l'homme par rapport à sa vocation profonde qui consiste à demeurer dans le bien, dans ce qui est bon. Alors, imaginez quand même, c'est une énorme responsabilité. Toute la création lui est confiée. Alors le Seigneur dit après ce commandement, et c'est tout à fait compréhensible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on reçoit une responsabilité, on peut éprouver un sentiment de solitude, en disant mais comment est-ce que je vais pouvoir... Et donc le premier à reconnaître la solitude de l'homme par rapport à sa responsabilité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient rejoindre l'homme dans sa solitude. Souvent, je dis aux couples qui m'arrivent d'accompagner, je leur dis, mais ne pensez pas que l'autre va combler votre solitude. N'attendez pas de votre époux ou de votre futur époux ou future épouse que il ou elle va combler votre solitude. Celui qui va combler votre solitude, c'est Dieu lui-même. Si vous demandez à l'autre de combler votre solitude, vous allez l'épuiser. On est tous marqués par une cicatrice, un vide intérieur qui exprime en fait notre soif profonde de Dieu. Et donc, c'est vraiment notre relation à Dieu qui nous, du coup, nous réajuste aussi dans notre relation à l'autre. Et c'est la relation de communion, donc à la lumière de Dieu, qui fait que cette solitude devient reconnaissance d'unicité. Tu as été voulu, tu es aimé. Donc on passe de l'épreuve de la solitude au fait d'être voulu et d'être aimé. Et donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide à sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez le récit. Le Seigneur va créer toutes sortes d'animaux. Et puis, l'homme donne un nom à ces animaux. Donc, on voit qu'il exerce, il prend au sérieux sa tâche de cultiver. Il est responsable des créatures. Donc, il va donner un nom aux animaux. Il voit le chat. Et comme il porte en lui toutes les dimensions de la création, il reconnaît, il sait que le chat est un chat. Il n'a pas besoin d'un petit bouquin. Vous savez, quand on a un petit enfant, on veut lui apprendre, on comprend un livre pour lui apprendre. Là, à cette époque-là, pas besoin de livre. Il y avait une familiarité profonde. Et donc, il pouvait dire, voilà, c'est un chat, c'est un chien, c'est un cheval, c'est un hippopotame, c'est un éléphant, c'est un moustique. Parce que même les moustiques ont été créés. Ouais, c'est difficile à comprendre, mais c'est le cas. Donc, chaque créature reçoit un nom. Alors, il est dit que l'homme ne trouve pas l'aide qui lui est assortie. Et cela se comprend. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais c'est sûr que si vous regardez votre chat dans les yeux, vous ne serez jamais vraiment profondément consolé. Le chat est une créature, et donc peut vous donner de découvrir quelque chose de la création, mais la relation au chat ne va pas vous combler intérieurement. La relation au chien non plus, la relation au cheval non plus. L'homme éprouve le fait que son vis-à-vis, il ne l'a pas encore trouvé. Et donc, vous savez ce qui se passe, il y a une torpeur. Il y a une torpeur qui vient, dans lequel l'homme est mis, donc un sommeil profond. La torpeur, c'est un sommeil profond. Alors, Jean-Paul II a une très belle interprétation de cette torpeur. Il dit, l'homme qui était l'être humain, ce n'était pas l'homme au masculin, c'était l'être humain. L'être humain est mis dans une torpeur parce que quand l'homme au masculin et la femme apparaissent, en fait, ils sont un mystère l'un pour l'autre. On ne comprend jamais vraiment l'origine de l'altérité. L'origine de l'altérité, elle n'appartient qu'à Dieu. Et donc, cette torpeur nous dit qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quelque chose qui nous échappe de la masculinité, quelque chose qui nous échappe de la féminité. Et sans cesse, on a à redécouvrir ce mystère. Vous n'aurez jamais fait le tour de votre mari ou de votre épouse. Vous ne pourrez jamais dire, ça y est, j'ai tout compris. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'au fond, il y a une altérité qui demeure mystérieuse. Une altérité qui, par ailleurs, est inépuisable. Alors cette torpeur, j'aime de rappeler, c'est ce que je rappelle souvent aux séminaristes, vous savez, il y a quelques années, c'était assez étonnant pour eux que d'avoir un enseignement féminin. Et puis de temps en temps, vous savez, c'est ces jeunes séminaristes qui ont eu que des frères, qui ont fait les scouts et entre garçons et qui sont rentrés au séminaire, ceux-là, ils se mettent tout derrière, avec leur ordinateur et puis ils se mettent un peu en mode veille. Alors je leur dis, c'est tout à fait normal en fait. L'altérité assomme. Alors je prenais du coup l'exemple de ma mère qui, à la fin de sa journée, racontait sa journée à mon père, qui était toujours heureux de l'accueillir, de la voir, mais qui à un moment donné, vous savez, tournait son regard vers le journal. Et il y a un moment donné où voilà, la torpeur s'installe parce que l'altérité assomme. Et c'est normal. Alors d'une part, l'altérité assomme, et d'autre part, c'est un choix à poser, c'est une liberté à engager. Cette altérité peut éveiller. Donc, une fois qu'ils seront l'un vis-à-vis de l'autre, on va avoir un éveil qui va apparaître. Mais d'abord, regardons un peu comment l'homme et la femme sont créés. Parce que c'est bien l'homme et la femme qui sont créés à ce moment-là. On est face à l'être humain et du côté, le Seigneur va prendre un côté et à partir de cela, il va créer la femme. Et c'est à partir de ce geste-là que l'homme au masculin va apparaître. Donc c'est assez beau. Donc c'est le geste de création de la femme qui va permettre à l'homme aussi, à l'homme au masculin, d'exister. Vous connaissez la réaction, c'est une réaction d'étonnement. Hein. Il a trouvé son vis-à-vis et que dit-il ? C'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Donc il reconnaît bien qu'il y a quelque chose de commun, mais il reconnaît aussi qu'il y a quelque chose de radicalement différent. Il dit, elle sera appelée femme. Alors dans l'hébreu, c'est très beau, c'est l'homme reconnaît le nom que Dieu donne à la femme. Vous savez, vous vous rappelez, il nommait les animaux, c'est vraiment l'homme qui nomme les animaux. Là, il nomme pas la femme, il reconnaît le nom que Dieu lui donne. Ça veut dire qu'il l'accueille, il l'accueille à partir de Dieu. Elle sera appelée femme. Alors vous connaissez la suite, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ne deviennent une seule chair. Alors le c'est pourquoi il est assez étonnant. Il est assez étonnant. Pourquoi est-ce que ce vis-à-vis fait que l'homme va quitter son père et sa mère? Par ailleurs, dans le texte, le rapport au père et à la mère est un peu étonnant. On est face au premier couple. Mais en fait, ça nous donne bien de comprendre que le premier couple, c'est chacun d'entre nous. Le premier homme, première femme, c'est chacun d'entre nous. Et donc, on s'inscrit dans une génération. Vous vous rappelez que je vous ai dit que vous étiez modelé. On est modelé, moi, par le fait d'être né à Bruxelles, vous peut-être à Paris ou ailleurs. Bref, on est modelé par notre histoire, on est modelé par notre éducation. Alors, c'est le vis-à-vis qui va permettre à l'homme de quitter. Alors, quitter, ça ne veut pas dire se couper, ça ne veut pas dire se séparer, ça veut dire assumer et aller de l'avant. Ou plutôt, c'est en allant de l'avant qu'on assume. L'altérité, Jean-Paul II dit, la femme est l'avenir de l'homme. En fait, il l'ouvre à autre chose. Et donc, c'est ce rapport à l'altérité qui lui permet d'intégrer son histoire, d'intégrer le fait qu'il ait été éduqué de telle manière, etc. Je ne sais pas s'il y a des couples présents, mais c'est vrai que quand on se marie, quand on est fiancé, on découvre à quel point, même si on a des familles qui se rapprochent, on découvre à quel point il y a des différences, inévitablement. Quand j'accompagne des fiancés au mariage, et puis dernièrement, ils étaient tout heureux de me dire, mais Laetitia, on a décidé de laisser les aspects pratiques de la préparation de notre mariage à nos parents. C'est nos parents qui vont s'occuper de ça. Puis moi, j'aurais dit non, c'est vous qui allez choisir la couleur de votre carton d'invitation. C'est vous qui allez choisir la couleur des serviettes. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui laisse apparaître le nous. Non seulement l'homme et la femme sont uniques, mais le couple est unique. Et donc ils viennent tous les deux avec leur histoire, leur éducation. Et peut-être que dans une famille, on avait l'habitude de mettre des serviettes jaunes, que dans l'autre famille, c'était des serviettes rouges. Eh bien, peut-être que là, ce seront des serviettes oranges. Mais en tout cas, il est important d'apprendre à poser des choix à travers lesquels le nous advient, à travers lequel une seule chair dont il est question, il s'agit évidemment de l'union conjugale, c'est sûr, mais cette union conjugale suppose aussi l'union d'âme et l'union d'esprit. Et donc les choix vécus ensemble, les choix quotidiens, les choix les plus simples supposent et sont des lieux où voilà, ce nous peut apparaître. Alors pourquoi est-ce que ce nous est si important? Pourquoi est-ce que ce nous est si important? Parce qu'il est complètement original. Il en appelle à une créativité extraordinaire. Bon, on n'est pas d'accord face à cette décision. Eh bien, on va creuser. On va creuser dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, pour voir comment avancer. Et le fait de creuser dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, est un lieu de grande créativité. Notre société a besoin de créativité. Quand on dit de la famille qu'elle est la cellule première de la société, c'est précisément d'abord grâce à cette altérité homme-femme qui laisse apparaître la créativité. Donc c'est extrêmement important. Le couple et la famille, c'est aussi l'église domestique. C'est le lieu où l'homme et la femme sont appelés à s'aimer, pas seulement de leur amour propre ou de leur propre amour, mais de l'amour même de Dieu. C'est ça le sacrement du mariage. Je t'aime pas seulement à travers ma capacité d'aimer, parce que cette capacité, elle est blessée, elle est pauvre, mais je t'aime à partir d'un amour qui se laisse sauver. Et par là même, on fonde notre mariage, on fonde notre famille dans le salut. Hein. Et ce salut, bien, il nous est évidemment communiqué par le Christ, mais il nous est signifié au cœur de l'Église par ce mystère de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception qui, voilà, qui est cet espace que nous ouvre la Vierge Marie à travers sa présence, cet espace de gratuité qui ne cesse de nous redire l'amour de Dieu. C'est pourquoi elle est, comme ici, refuge des pécheurs. Voilà, je pense que il faut que je laisse un petit laps de temps pour que les prêtres se préparent pour la messe. Donc nous continuerons notre chemin. Alors je pense que demain c'est un peu plus tôt, c'est 17h30, c'est 17h30, et puis on abordera une question plus difficile, mais qui n'est pas forcément, qui peut être vraiment bien intégrée, la tentation, le péché et plus profondément le salut. Voilà, merci.
Se tourner vers la Sainte Vierge. Demandez à la Sainte Vierge que ce que vient de dire Laetitia porte du fruit dans nos cœurs et que l'Esprit Saint fasse en nous toutes choses nouvelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc tout de suite la messe et demain 17h30 pour l'enseignement. Merci beaucoup.